Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour et bienvenue dans Au fil des pages qui accueille en ce jour Alain Besançon avec Sainte-Russie aux éditions de Fallois, le dernier essai d'Alain Besançon. Bonjour Alain Besançon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et de nous faire découvrir ce monde mystérieux sur lequel l'Occident a beaucoup d'illusions et de projections, la Russie. On va y revenir dans quelques instants. Je vous présente en deux mots. Vous êtes historien, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Membre de l'Institut, vous dirigez la section de philosophie, qui n'a rien à voir en soi avec l'histoire.
Oh, mais quand même, l'histoire quand même, et la philosophie en partie liées.
Certes. Alors, la Sainte-Russie, vous dites d'ailleurs, il n'y a qu'un mot, qu'un adjectif qu'on utilise avec le mot Russie, le mot sainte, on ne l'utilise pas pour d'autres pays.
Effectivement, la Russie est cette nation qui s'est donné le titre de sainte, qui n'était auparavant applicable qu'à la Terre sainte. Mais on parle de la Douce France, on parle de la Vieille Angleterre, on parle de la belle Italie.
Il y a eu le Saint-Empire romain, germanique.
Ah ben, Saint-Empire romain, c'était la chrétienté, c'était l'empereur. Ça ne désignait pas une nation particulière. L'Italie en faisait partie, pas le Bourbonnais, mais la Bourgogne et la Franche-Comté en faisaient partie. Non, non, la Russie est le seul pays qui s'est donné le titre de saint, et ça à la jonction du 15e, 16e siècle.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi ce titre lui a été donné. Pourquoi s'est-elle donné ce titre? Dans quelles circonstances? Et quelle définition a-t-il ce titre? Parce que le mot saint n'est pas si évident que cela à définir.
Si, la Russie s'est considérée comme le seul pays chrétien. Rome s'était éloignée et était tombée aux yeux des orthodoxes dans la plus épouvantable hérésie. Vers 1054, il y avait le schisme officiel. Et puis, Byzance, qui s'était réconciliée apparemment avec la chrétienté latine au concile de Florence, a payé ce péché par la prise de Constantinople par les Turcs. Qu'est-ce qui restait d'orthodoxe sur terre, étant donné que l'ensemble des Balkans byzantins avaient été conquis par les Turcs? Qu'est-ce qui restait? Ben, c'était cette terre obscure que personne ne connaissait, très, très reculée, et qui, par une sorte d'orgueil, de mégalomanie extraordinaire, s'est déclarée le seul pays chrétien, et le tsar étant le, il n'avait pas encore le titre de tsar d'ailleurs, qu'elle a pris après, mais était le seul royaume chrétien sur terre. Le reste étant hérétique ou infidèle.
Et pourquoi? Quelle est la faveur? C'est l'événement de la chute de Constantinople qui a enclenché ce processus vers l'idée que c'était le seul pays chrétien sur terre.
Oui, parce que ça a été une justification. Et comme le pape avait ménagé le mariage du grand prince de Moscou avec une héritière des empereurs paléologues, dans l'espoir que la Russie pourrait être embringuée dans une croisade qui n'a jamais eu lieu contre les Turcs, l'État russe en a eu toute autre interprétation. Il était l'héritier de Byzance et il a mis sur ses armes l'aigle à deux têtes, qui était l'aigle des empereurs byzantins ou des empereurs romains, d'ailleurs, de la fin de l'Antiquité.
Le tsar est un pape?
Non, il n'est pas du tout un pape, il n'y a pas de pape, mais il est, à partir d'un certain concile, avant Pierre le Grand, enfin juste avant, il a déclaré que le patriarche de Russie serait remplacé par un corps bureaucratique, et sous Pierre le Grand, ça a été formalisé, qu'on appelait le Saint-Synode, dont le président était un laïc. Et le tsar s'est considéré comme la tête uniquement enfin, responsable, sur sa propre tête, de l'Église russe. Ça avait commencé déjà avec Ivan le Terrible.
On a le sentiment, Alain Besançon, que le tsar est quelque part à l'intermédiaire entre le roi et le pape dans l'esprit occidental, qu'il est au-dessus de l'échelon du roi, mais qu'il n'est pas le pape non plus.
Ben, tsar veut dire César. C'est un titre qu'a pris ensuite le roi de Bulgarie. En fait, le mot est bulgare. Le roi des Bulgares s'appelait le César, par opposition au César de Constantinople. Et les Russes, en prenant le titre de tsar, bon, ben, ils ont pris leur propre chef. Mais ensuite, Pierre le Grand a remplacé ce titre de tsar par le titre d'empereur. Et ça a un peu choqué les Occidentaux, puisque dans le monde latin, il n'existait qu'un empereur, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Si bien qu'il a fallu attendre un bout de temps pour que le titre d'empereur soit reconnu au tsar russe. Et le pape a attendu 1815, quand l'empereur n'existait plus. Il n'existait plus qu'un empereur d'Autriche, un empereur de... Voilà. Donc, on pouvait donner le titre d'empereur à qui l'on voulait.
Le titre de Sainte-Russie sera une dénomination officielle?
Non, elle a été une dénomination officielle jusqu'à Pierre le Grand. Puis le titre s'est enterré pour un moment dans l'espèce de laïcisation, de sécularisation de l'Église, voulue par l'empereur, voulue par Pierre le Grand, et il n'est ressorti que dans la littérature au XIXe siècle et dans le mouvement romantique russe où là on a remonté.
Qui prendra le relais.
Qui a pris le relais, voilà, on a remonté le titre de Sainte-Russie qui avait disparu.
Alors pourquoi ?
Le mot qui désignait la Russie, c'était Russe. Alors ça a été supprimé par Pierre le Grand. Et ça a été remplacé par Russia ou Russiski Imperia, c'est-à-dire Russiska Imperia, c'est-à-dire l'Empire russe. Donc, ça a changé pas mal.
Pourquoi la littérature a-t-elle pris le relais précisément de la politique ? Quel était le phénomène d'imprégnation pour que ça passe dans la culture et que ça soit ainsi transmis aux occidentaux ?
La Russie, en 1815, était une nation puissante, mais en même temps, quand on la regardait de près, elle était une nation pas très honorable. Et justement, Pushkin s'écriait « Comme elle est triste, notre Russie !» Et Gogol avait fait Les Hommes Mortes qui donne un tableau extrêmement noir de la Russie. Alors qu'est-ce qu'avait la Russie à faire valoir pour nourrir son nationalisme qui a toujours été extrême ? Elle pouvait pas faire valoir, disons, son passé culturel parce qu'il n'y en avait pas. Elle pouvait faire valoir la gloire de ses armes, mais enfin, ça durait pas depuis longtemps. Elle a subi des défaites. Non, elle avait qu'une chose à faire valoir, c'est justement la pureté proclamée de son christianisme. Les Occidentaux étant devenus hérétiques, la Russie était redevenue de nouveau le seul pays où le christianisme avait été conservé dans sa pureté.
Et ça, les écrivains et le XIXe siècle va s'en faire l'écho.
Il va s'en faire l'écho d'autant plus qu'il fallait bien justifier le nationalisme russe. Et il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Et alors ça a entraîné évidemment une sorte de transfiguration de la Russie. Puisqu'en somme, le présent russe était ce qu'il était. Et d'ailleurs, les écrivains le voyaient bien. Mais en même temps, il pouvait être transposé sur un autre registre. Un registre mystique. Et là, le mot Sainte-Russie n'était plus tellement employé. Mais enfin, la sainteté de la Russie, l'exceptionnalité chrétienne de la Russie a été manifestée. Et après, l'éclipse du communisme est revenue plus fort que jamais.
Quelles sont les grandes figures au XIXe siècle qui ont le plus exalté cette figure de sainteté, cette dimension sainte de la Russie, Alain Besançon ?
Bien, écoutez, vous avez des écrivains très illustres en Europe, comme Gogol ou comme Dostoïevski. Vous avez des écrivains qui n'ont pas marché, très peu d'ailleurs. C'est Tchekhov. Tchekhov, pour lui, c'était une âme pure et pour lui, ses affaires de nationalisme ne l'intéressaient pas. Et puis, vous avez des philosophes, quand même très nombreux ou assez nombreux, enfin, disons, Kirievski, Khomyakov et d'autres. Enfin, et le jeune Soloviov, pour prendre un nom qui s'est d'ailleurs détaché de cette façon de penser à la fin de sa vie. Donc, le slavophilisme, c'est-à-dire la doctrine d'opposition de la Russie comme essence à l'Europe, c'est une doctrine qui a été dominante et féconde. Et féconde puisque presque toute la littérature russe en dépend.
Comme on sait, la Russie n'est ni en Europe ni en Asie, elle est en Russie. Et donc, c'est de notre ressort de la définir, d'essayer de,
attendez,
de
elle
la comprendre.
Non, elle n'est pas ni en Europe ni en Russie, elle est à la fois en Europe et en Asie.
Et en Asie.
Oui, parce que vous avez dans l'impérialisme russe, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que la Russie, en somme, en un siècle, est passée d'une petite principauté misérable dans ses forêts et toujours battue par des armées polonaises ou des armées suédoises, à quelque chose qui avait conquis la Pologne, l'Ukraine, les pays baltes, la Finlande, et qui se répandait en Asie jusqu'à Vladivostok, et avec une immense frontière avec la Chine. Donc, cette exaltation de l'espace russe a été un motif de gloire. Ça a été l'autre motif de gloire avec la religion.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi, Alain Besançon, pourquoi cette pureté est à ce point exaltée ? Est-ce que c'est lié à l'isolement de la Russie, une forme d'isolement ? Est-ce que c'est un pays trop grand où les hommes sont perdus dans un espace qui peut paraître à certains endroits monotone? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de mélancolie qui se dégage de cette définition de la Russie?
Souvent, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, ils vivent sur deux plans, les Russes. Sur le plan de la réalité quotidienne. Et là, il y a un mot qui est la listina comme vérité d'évidence des choses vues. Et puis, il y a le plan mystique, dans lequel la Russie brille au-dessus de tous les autres, quels que soient ses péchés, ou même à cause de ses péchés, qui doivent être vus comme un signe d'humilité, de rapprochement de Dieu. Vous avez une église qui n'est pas du tout structurée comme l'église catholique, par exemple, ou les églises de la Réforme. L'église de la Réforme, c'est des assemblées religieuses, mais dans le monde luthérien, l'évêque naturel est le prince local. Dans le monde catholique, vous avez une hiérarchie très compliquée qui monte jusqu'au pape. Mais en Russie, ce n'est pas ça. Et le pape est essentiellement un liturge. La religion russe, la piété russe, comme dans tous les pays orthodoxes, s'appuie essentiellement sur l'icône, qui est vue comme participant à ce qui est représenté, ayant une sainteté particulière, parce que c'est pas seulement la Mère de Dieu ou le Christ qui est représenté, mais il y a un peu de Christ et un peu de Mère de Dieu dans l'icône elle-même, puisque à Byzance, quelquefois, on grattait les icônes pour les faire tomber dans les calices, comme si ça... Bon. Et puis la deuxième chose, c'est la liturgie qui est extrêmement belle, qui est très ancienne, qui est celle de Saint Jean Chrysostome, essentiellement. En fait, formée dans les grands monastères byzantins, mais qui a été maintenue avec une rigueur absolue par les popes, les prêtres, qui ne sont éduqués qu'à cela. On leur demande pas d'avoir un bagage théologique ou philosophique. On ne peut pas les employer à des tâches d'enseignement, comme les souverains allemands utilisaient le clergé des pasteurs pour des tâches d'enseignement et d'administration. En Russie, on le faisait pas parce qu'ils n'en étaient pas capables, et c'était pas leur job, c'était pas leur truc, ils ne savaient pas. C'est pas une église enseignante, c'est une église qui doit être objet de contemplation mystique, c'est comme ça. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent être très bons chrétiens par ailleurs. C'est une forme de christianisme que l'église catholique a toujours vue comme étant substantiellement chrétienne. C'est une église séparée, c'est pas une église hérétique, n'est-ce pas? Pas du tout. La succession apostolique, les sacrements, la doctrine est la même.
Cette idée de pureté, Alain Besançon, parce que vous la développez à travers l'idée que c'est un objet de contemplation, que la liturgie joue un rôle très particulier, est-ce que l'idée, c'est que la Russie a reproduit, a permis à travers l'histoire de reproduire le modèle byzantin sans passer par toutes les influences occidentales? En quelque sorte, le temps paraît un peu suspendu, il y a une forme d'éternité, on a reproduit ce qui s'est fait un moment dans l'histoire et l'idée c'est de le prolonger, de le maintenir vivace.
Qu'est-ce que c'est que l'Europe? L'Europe, c'est une série d'expériences qu'elle a faites. Et que, je dis ça un peu au hasard, elle a eu le droit romain, elle a eu la langue latine, elle a eu les grands ordres religieux, elle a eu la féodalité, elle a eu les villes, elle a eu les universités, elle a eu la Renaissance, elle a eu les Lumières. Eh bien, toutes ces expériences, la Russie ne les a pas faites. Elle a simplement eu un reflet de lumière à la fin du XVIIIe siècle, ou surtout au début du XIXe siècle. Donc la Russie n'a pas eu les expériences de l'Europe. On ne peut pas la considérer comme...
C'est en cela qu'elle n'est pas européenne, d'une certaine façon.
Elle dit qu'elle l'est, mais en même temps elle dit qu'elle ne l'est pas. Enfin, elle est très ambivalente à ce sujet. Et vous avez toujours eu un courant eurasiatique qui dit que la Russie appartient plutôt au monde asiatique. Puis vous avez un courant... Ça ressemble un peu, d'une certaine façon, vous avez un umma russe, oui, vous connaissez le mot, c'est un mot musulman, enfin, qui désigne la communauté des musulmans, ils se reconnaissent entre eux comme musulmans, et il y a une frontière avec un djihad qui marque la frontière. Eh bien, les Russes, qui sont des chrétiens, ont quand même été très marqués par les Tatars, qui les ont soumis, dominés pendant un certain temps. Et il y a un umma orthodoxe qui est un sentiment très profond. Alors, le communisme a essayé de... a repris ça, mais de nouveau maintenant, c'est les points où la Russie se reconnaît, ben c'est encore une fois de plus l'Église orthodoxe, et dont les hiérarques sont très étroitement contrôlés par l'État russe, et je dirais même par ses organes de police. On dit que les deux derniers patriarches, c'était vraiment, on le dit, je sais pas, mais enfin sorti du KGB ou du FSB. Et l'autre point d'ancrage, c'est le sentiment très fort chez les Russes d'avoir dominé un immense espace. Les 11 fuseaux horaires, Voltaire remarquait déjà que l'Empire russe, c'était déjà un empire russe, était plusieurs fois plus grand que l'Empire romain, à son apogée. Bon, il était vide, il était sauvage, mais il était plus grand. Eh bien, cette espace, cette tache sur la carte, est pour les Russes un objet de fierté immense. Pour ça, par exemple, qu'ils n'ont jamais voulu rendre au Japon deux petits îlots minuscules qu'ils ont volés au Japon, enfin en 45, mais rendre au Japon un pouce de terre russe, ça serait insupportable. Et qu'elle supporte très mal le départ des Pays-Baltes, le départ de l'Ukraine et le départ bientôt du Caucase. Hein.
On revient à l'idée d'Ouma d'ailleurs. Une fois que la terre appartient à la communauté,
oui.
On ne peut pas rétrocéder la terre.
On ne rétrocède pas, non. Ce qu'on a occupé, on le garde. Et ils ne sont pas contents. Et d'autant plus que le ressort dans le système orthodoxe, le ressort de la domination n'est pas la conquête, n'est pas même la justice ou le... C'est l'amour. Oui, voilà. L'amour qui permet de se passer de la justice, qui permet de se passer de l'opinion des gens, mais qui est le motif. Le Solzhenitsyn disait, mais pourquoi les Ukrainiens s'en vont? Nous les aimons. Pourquoi les Pays-Baltes s'en vont? Nous les aimons. Alors évidemment, en Ukraine et dans les Pays-Baltes, on sait ce que c'est que l'amour à la russe. On le redoute plus qu'un simple esprit de conquête.
Alain Besançon, vous restez avec nous au fil des pages consacrées à Sainte-Russie aux éditions de Fallois. On marque une pause.
Il fut le familier de Brancusi, Bourdelle ou encore Mayol. La vie d'Antoine Poncet s'apparente à un roman nuancé, balancé entre la Suisse et la France. Découvrez cet artiste au grand talent qui est aussi en 2009 le président de l'Académie des Beaux-Arts, plongé dans son univers et son atelier de la rue Saint-Simon à Paris. 67 ans de travaux, des rêves et toujours de la joie. Écoutez l'émission Antoine Poncet, un sculpteur au royaume de l'art.
Au fil des pages, avec pour invité Alain Besançon, historien, membre de l'Institut Sainte-Russie aux éditions de Fallois. On essaie de comprendre cette notion. C'est plus qu'une notion, c'est une âme, la fameuse âme russe.
Le mot âme russe, c'est une création.
C'est un cliché peut-être. Alors,
oui,
vous allez
c'est
justement,
un cliché inventé en France par le vicomte Melchior de Vogüé vers 1880.
Sainte-Russie n'a pas été inventée en France,
n'est
pas
non,
un cliché.
Non, âme russe. Âme russe.
Allez-y, dites un mot sur âme russe, tiens, pendant qu'on y est.
Disons, il y a quelque chose de séduisant en Russie, il y a quelque chose de prenant, il y a la liturgie extrêmement belle, il y a le chant, il y a un certain genre de relation humaine qui fait qu'il y a un charme russe et qui a fait que les gens qui se sont, en particulier au moment de l'alliance franco-russe, dans les années 80 du 19e siècle, certains gens se sont enthousiasmés et ont parlé, puisque c'était quelque chose d'un peu difficile à saisir, c'était plus affectif qu'intellectuel, et ont parlé d'âme russe, voilà. Et le mot a probablement été inventé par Melchior de Vogüé dans son livre qui s'appelle Le Roman russe.
C'est lié à l'histoire d'amour, puisque vous parliez d'amour tout à l'heure, entre la France et la Russie?
La France a été très variable sur la Russie, et pour des raisons très différentes, c'est ça qui est très intéressant. Disons qu'au XVIIIe siècle, la Russie payait un peu ses propagandistes en France, elle payait Voltaire, elle payait Diderot, etc. Mais enfin, ceux-là étaient sincèrement frappés par le côté rationnel du programme de l'État de Pierre le Grand. Il s'agissait d'une page blanche sur laquelle on allait faire, disons, des institutions correspondant à la raison. Alors, comme ils n'étaient pas contents en France, où les institutions ne correspondaient pas toujours à la raison, ils ont imaginé en Russie, bon. Et puis, ça, on les a vus, la Russie. Ils sont arrivés en France, ils ont occupé Paris, et puis les Français ont été jusqu'à Moscou, ils ont vu ce que c'était aussi. Alors, vous avez une période extrêmement anti-russe. Et puis, quand même, ils ont vu le régime russe. Et disons des gens comme Michelet, comme le fameux marquis de Custine, ont donné de la Russie un tableau prodigieusement noir.
Oui.
Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'après ça, la France a eu besoin de la Russie, après la guerre de 70, pour faire contrepoids à l'Allemagne. Alors là, bon, là vous avez une alliance franco-russe, la France subventionnant la Russie, en espérant qu'elle aurait une bonne armée, et qu'elle pourrait mettre des voies ferrées pour amener ses armées à la frontière russe. Elle voulait développer la Russie. Et en même temps,
très grand succès auprès des Français quand même.
Ah bah oui, ça a été
les fameux emprunts russes.
Les fameux emprunts russes, ça a été énorme. Ça n'a pas été d'ailleurs entièrement. Bon, enfin, peu importe. Enfin, cette alliance franco-russe a abouti à la guerre. C'est ce que voyaient beaucoup de gens lucides dans tous les partis français. Ils disaient cette alliance est très imprudente. Nous sommes liés et ça va nous emmener à la guerre. Et ça, c'est bien ce qui s'est passé. Et puis en même temps, l'alliance de la République française, qui devenait de plus en plus démocratique, radicale, était choqué par l'alliance avec un pays qui ne l'était pas, malgré toutes les subventions que la Russie déversait sur les journaux français. Hein? Enfin, quand même, il y avait des gens qui savaient plutôt à gauche, d'ailleurs, ce qu'était la Russie. Et le premier reportage, vraiment de première main et excellent, sur les horreurs de la Révolution russe, c'est-à-dire de février, octobre, etc., octobre, bien, c'est dans l'Humanité que c'est sorti. L'Humanité, qui est un journal socialiste, enfin pas encore communisé, pas encore soviétisé, mais tel journal de Jean Jaurès, et bon, il a dit la vérité sur la Russie, à cette époque-là. Après ça, ça a vite changé. Alors après ça, bah écoutez, une partie de la France, en tout cas, est devenue pro-russe parce qu'ils ont imaginé que la Révolution russe était un prolongement de la Révolution française. Et la Révolution française, c'était quand même la base légitimante de la République. Alors la Russie avait l'air de pousser la Révolution française jusqu'à sa conclusion logique. Alors, il n'y avait plus qu'à devenir communiste, ou au moins pro-russe.
Hein? Certes.
Et puis, vous aviez des gens de droite qui étaient aussi pro-russes pour des raisons tout à fait différentes, pour une certaine religiosité, pour le charme. Là, c'est moins net.
Par opposition à l'Amérique aussi?
Et puis, par opposition à l'Amérique. Alors, nous avons toujours eu un parti russe en France. Nous l'avons encore aujourd'hui.
Par qui est-il représenté?
Je dirais que c'est plutôt par des gens de droite. Vous les avez dans l'armée, vous les avez dans l'Église qui continue de rêver à une unité des deux Églises. Mais ça... Bon, enfin, ça se passe encore sur d'autres choses.
C'est un rêve, en tout cas.
Pour l'instant, oui. Pour l'instant et pour longtemps, c'est un rêve. Et puis, la Russie est également un pays qui paraît un peu sans loi, donc projetant un vaste espace où l'on peut être un peu immoral ou antimoral ou échapper à l'étroitesse de la morale bourgeoise. Vous avez le roman de Carrère, la Limonov, c'est exactement ça. Le voyou russe qui arrive dans le douillet milieu littéraire parisien, ben ça impressionne nos écrivains, ils se mettent à l'adorer. Et l'adorer justement comme voyou. Ça, c'est un phénomène un peu curieux. Donc, vous avez des tas de raisons d'aimer la Russie. Et puis, quand même, la Russie a une littérature magnifique du 19e siècle, des musiciens. Et elle commençait même à avoir de l'art au début du 20e siècle. Tout ça, c'est impressionnant, imposant. Et la France avait raison de faire fête à ce pays qu'elle croyait arriver au port, arriver en Europe. Et puis, il y a eu la rupture communiste.
Alors, justement, la rupture communiste, puisque vous y êtes, Alain Besançon, quel est le lien entre l'idée de Sainte-Russie, qui est une idée aussi à caractère un peu prophétique, puisqu'il y a l'idée de pureté, l'idée d'accomplissement, l'idée de contemplation, l'idée de perfection aussi, avec la révolution.
La révolution d'octobre n'est pas une révolution, c'est la prise de pouvoir en Russie d'une secte, la secte des bolcheviks. Alors qu'est-ce qui caractérisait la secte des bolcheviks? C'est qu'ils croyaient avoir trouvé le savoir absolu. Et le savoir absolu, c'était une chose très attrayante, parce que les hommes veulent savoir, on le sait depuis Aristote. Et là, ils avaient un corps de doctrine extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que les rêveries des populistes du vague socialisme russe du 19e siècle, et qui permettait de former un parti instruit dans cette discipline et capable de la garder. Et Lénine a rompu non seulement avec les populistes russes, en devenant marxiste, et une version extrêmement simplifiée mais dure et blindée du marxisme, mais avec la social-démocratie occidentale. Parce que le socialisme est un vaste mouvement, un très très vaste mouvement. Et si vous voulez, Lénine a fait, allez, sur la base du communisme, un peu ce que l'Église orthodoxe avait fait en 1054, c'est-à-dire se retrancher dans une forteresse hérissée, malveillante, mais imperméable, et ayant rompu avec les autres chrétiens, comme Lénine avait rompu avec les autres socialistes. Parce qu'en Allemagne, le socialisme s'est devenu une social-démocratie très vite, mais pas en Russie, pas en Russie. Au contraire, la social-démocratie était le grand ennemi. Voilà. Alors, les populistes, les slavophiles disaient, la bénédiction de la Russie, c'est qu'elle est en retard, et tant qu'elle n'a pas été contaminée par les miasmes européens. Eh bien, Lénine a dit un peu la même chose. Le bonheur de la Russie, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de se faire une société bourgeoise et d'évoluer comme, donc, une nouvelle page blanche sur laquelle on pourrait écrire un texte nouveau.
Et pourtant, Karl Marx voyait plutôt la révolution en Angleterre qu'en Russie.
Oui, enfin, il s'est intéressé à la Russie quand les Russes ont commencé à le traduire. Ça, c'est un réflexe d'auteur. Oui, mais enfin, disons que comme l'utopie du communisme était une utopie, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas s'incarner, il a fallu renforcer terriblement le pouvoir de l'État. Parce que la Russie, elle marchait toute seule. Enfin, c'est pas vrai que la Russie des Tsars était un pays, c'était pas un pays drôle, c'était un pays très rude et par rapport à l'Europe occidentale, il y avait quand même d'autres normes. Mais enfin, le système pénitentiaire russe n'a jamais abrité plus de 70 000 détenus. Et la presse était à peu près libre, la censure n'a jamais empêché Dostoïevski ou les autres d'écrire. Alors que là, vous avez eu au contraire un KGB, une police d'État qui a atteint 500 000 personnes et des millions du goulag, puisque un adulte russe sur 6 à peu près a fait l'expérience du goulag, c'est quand même quelque chose de terrifiant, l'imposition d'une langue de bois infranchissable. Donc, et là, si vous voulez, c'est un grand débat, parce que est-ce que cette Russie soviétique est le prolongement de la Russie tsariste?
Est-ce qu'elle a une dimension religieuse?
Attendez, mais d'abord, vous savez que De Gaulle a toujours dit, n'a jamais voulu prononcer le mot d'Union soviétique ou du RSS, il disait la Russie. C'est-à-dire qu'il croyait que la Russie était un système qui, en somme, prolongeait l'ancien système tsariste. Alors je crois qu'il se trompait, il a eu des déboires, parce qu'il a sous-estimé le rôle de cette idéologie monstrueuse. Mais il voyait bien.
Sous le soviétique, le russe, c'est ce que disait De Gaulle.
Bien sûr que le soviétique, le russe, mais la Russie n'avait jamais connu ça. Sauf à certains moments de Pierre le Grand, où vous aviez eu effectivement un état absolument terrifiant, et à certains moments d'Ivan Terrible, des moments encore plus terrifiants. Alors bon, le caractère terrifique du bolchevisme a plus se référer à Ivan Terrible, à Pierre le Grand, mais jamais à des zones plus tranquilles. Enfin, 19e siècle, la Russie n'est pas un pays terrifiant. Elle avait une littérature, elle avait même un droit. Il commençait à avoir un droit, il commençait à avoir une propriété, il commençait à avoir toutes les choses que vous voyez dans la littérature russe, qui est une littérature entièrement européenne, et une musique qui est entièrement européenne. C'est pas la musique chinoise, c'est pas la littérature hindoue, c'est une littérature européenne. Bon, voilà. Mais ça ne tient qu'à une classe très mince et toujours menacée. Voilà, voilà ce qui s'est passé. La Russie était toujours vaincue, parce qu'elle n'avait pas d'armée. Pour avoir une armée, il faut avoir des officiers qui connaissent l'art des fortifications, l'art de l'artillerie, il faut les former. Donc c'est une introduction nécessaire des modes rationnels de pensée occidentaux. Donc la Russie a formé cette couche cultivée dans les écoles militaires essentiellement, mais ils étaient formés à l'européenne. Et même Catherine II a compris que pour cette petite couche, il fallait adopter des mœurs européennes.
Mais Pierre Le Grand, déjà,
au lieu de se battre à coups de pied, on se battra en duel. Au lieu d'apprendre, on apprendra à danser, on apprendra la politesse. Ça, ça commence à la fin du règne de Catherine qui a créé une petite noblesse. Et elle lui a donné des serfs, les serfs de la couronne, de façon à lui donner les moyens de son instruction. Parce que l'instruction, il fallait payer quand même les garçons qui allaient à l'école militaire. Alors donc, la Russie a une petite noblesse, n'est-ce pas? Une petite couche très mince. Mais alors, elle vivait dans la peur. Elle vivait dans la peur parce qu'ils étaient entre le tsar, qui restait le tsar, qui n'admettait aucune représentation. C'était pas... Et puis, le peuple, ce qu'ils appellent le prostoy narod, comme ils disaient, le simple peuple, qui vivait comme autrefois, serf ou pas serf, mais toujours extrêmement opprimé, et qui faisait peur, qui était prêt à se soulever. Et quand il s'est soulevé, il s'est soulevé vraiment entre février et octobre 17. Il a répandu une mer de sang. Et Lénine lui a dit, mais allez-y, pillez, pillez, pillez. Et il a maintenu un état d'anarchie en Russie, tel que sa petite bande, qui était une secte, mais qui était prête à tout, a pu former un État et pousser après ça les paysans, après les avoir bien réprimés, on va envoyer contre les tanks et les gaz asphyxiants, comme faisait Trotsky, il a pu les rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire un peu plus tard dans les kolkhozes et les sovkhozes, les a remis en esclavage.
C'est ça. On a l'impression qu'il y a une forme de fatalisme aussi, peut-être, je ne sais pas quelle dimension vous donnez à ce terme, mais que c'est un peuple, là vous l'avez dit, il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a pas de classe moyenne véritablement constituée.
Non.
Il y a un esprit de servage et à côté de cela, vous avez la secte bolchevique qui atteint un pouvoir phénoménal et un pouvoir de tout reconstruire, tout remodeler.
Et d'autant plus que c'est un pouvoir impuissant, puisque cette utopie n'a jamais réussi à être acceptée. Il n'y a jamais eu d'homme nouveau, il n'y a jamais eu d'acceptation. Les Russes ont été moins communisés, et heureusement pour eux, que l'Allemagne a été hitlérisée. Bon, mais l'Allemagne s'est vraiment repentie de ce moment d'égarement. Alors que la Russie, pas du tout.
Est-ce que le communisme fut un moment religieux à sa manière, pour relier à Sainte-Russie, Alain Besançon?
Non.
Comment s'articule l'idée de Sainte-Russie avec la grève communiste? Comment ça s'articule?
Bon, il y a toujours eu des petits noyaux d'église orthodoxe soutenus par l'État, asservis par l'État, soutenant l'État, et surtout à partir de Staline, qu'il a eu besoin quand même de ressusciter un bout d'église orthodoxe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sans ça, ils ont essayé d'organiser des cérémonies d'un culte communiste avec des mariages communistes, des semaines communistes, des jeunesses communistes, enfin, etc. Mais enfin, tout ça, ça a très peu marché. Et au fond, Khrouchtchev, d'une certaine façon, mais ça rentre loin. Ça a été le dernier qui croyait au communisme. Après ça, le communisme, il était parlé, il était subi, mais il n'était pas cru. Et c'est pour ça que la Russie est tombée toute seule, parce que la classe, pas la classe, la secte dirigeante, disons, n'y croyait plus elle-même. Et commençait à se dégoûter d'elle-même. Et alors, elle s'est dit, bon, alors, on a voulu bouger quelques boulons, resserrer quelques boulons, et elle s'est écroulée.
Voilà. Alors, là-dessus arrive 91, le régime Eltsine, aujourd'hui.
Alors, vous avez de nouveau, vous avez dans...
Bon, c'est le retour de la Sainte-Russie à ce moment-là?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Je dirais, vous avez un vrai anticommuniste qui était Eltsine, d'une certaine façon, qui était brut, mais sincèrement anticommuniste. Mais ça a donné une période d'anarchie dont les Russes gardent un mauvais souvenir. À ce moment-là, disons, Poutine a pris le pouvoir, et là, maintenant, vous avez une secte dirigeante qui comprend les tchéquistes, enfin, ou kégébistes, les guébistes, comme on dit, le FSB, si vous voulez, enfin, les services de police, et les milliardaires qui ont payé la Russie, mais qui ont compris qu'ils ne pouvaient le faire durablement qu'avec l'appui de l'État. Donc, vous avez un régime mafieux, comme peut-être certains régimes d'Amérique latine l'ont été à un moment, mais c'est fini tout ça. Mais enfin, là, en Russie, c'est en plein. Et alors, ce régime a compris que le communisme ne pouvait plus le diffuser. Donc, il a cherché une idéologie de remplacement. Et cette idéologie de remplacement, ça a été l'Église orthodoxe. Alors, Poutine se promène avec des croix sous sa chemise, va à tous les offices, et voilà, et tous d'ailleurs. Et le baptême est devenu pratiquement obligatoire. Il n'y a aucune remontée de la piété religieuse en Russie. Au contraire, maintenant, se développe, comme l'Église est complètement asservie, se développe un anticléricalisme. Et on l'a vu avec les histoires des punkettes, là. Ça, ces punkettes se moquent du régime soviétique et se moquent de cet amalgame, de l'orthodoxisme, comme dit Poutine, remplaçant, c'est pas un mot vraiment russe, mais orthodoxisme comme marxisme, il faut un isme, comme doctrine de remplacement. Et disons, là, actuellement, vous avez, dans les moyens extérieurs d'influence sur l'Occident, vous avez les pop, qu'on envoie par paquet, et on va construire près de la Tour Eiffel, avec l'esprit de servilité qui a toujours caractérisé les Français, va construire un monstrueux.
Il semblerait que ce soit remis en cause.
Ben, j'espère bien, parce que c'est vraiment d'abord très extraordinairement laid. Et puis,
ce sera kitsch.
Oui, ce sera extrêmement laid. Et puis, ce serait surtout un nid de soviétisme, enfin de post-soviétisme.
Alors, en fait, aujourd'hui, vous nous dites que l'incantation identitaire sur l'orthodoxie, c'est un alibi pour le pouvoir pour se trouver une justification. On a toujours besoin d'une doctrine pour justifier son existence. Qu'en est-il, ça sera ma dernière question, Alain Besançon, qu'en est-il de la réalité de la Sainte Russie? Puisque vous nous dites qu'il y a une déculturation religieuse et peut-être un anticléricalisme qui progresse, est-ce que cette réalité qui semble être une sorte de vaisseau amiral qui continue à avancer, quelle que soit la nature de l'histoire, est-ce qu'elle continue cette réalité et comment continue-t-elle? Est-ce qu'elle est présente encore dans l'esprit des Russes?
Oui, les Russes tiennent à leur espace, ça je l'aurais dit.
Donc,
et chaque fois qu'un petit bout s'en va, ils sont extrêmement malheureux. Alors ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas récupérer l'Asie centrale, ils se contentent simplement qu'il y a là des régimes non européens, que ce soit d'atroces dictatures comme en Turkménie ou au Kazakhstan, etc. Mais ça bouge pas. Mais ils ont à compter, ils peuvent pas les dominer complètement parce qu'il y a la Chine qui est de l'autre côté, qui a son rôle à jouer. Le Caucase, à mon avis, est mal parti. Elle est très mal partie. Le Caucase musulman, le Nord-Caucase, elle est très mal partie. L'Ukraine, elle essaye, n'est-ce pas, de soudoyer tout le monde, etc. Mais alors, pour ce qui est de la religion, encore un coup.
Religion et culture.
Non,
les deux
oui, mais enfin, encore un coup, disons le. Bon, il n'y a plus de grands écrivains, ça c'est fini. Enfin, il y a des écrivains qui, la peinture, ils moulinent de l'art abstrait, de l'art contemporain, exactement. Comme tout le monde maintenant, on peut pas distinguer.
Donc ça, c'est la culture planétaire,
Ça n'a pas d'importance. Dans l'orthodoxie, il y a toujours eu deux éléments. Il y a toujours eu un élément de vrai christianisme. Et il y a toujours eu de très bons chrétiens dans l'orthodoxie, et que l'Église catholique, en tout cas, reconnaît comme telle. Et puis, il y a également la puissance du sentiment anti-catholique, anti-occidental, etc. Alors, c'est cette partie-là qui est cultivée en ce moment. Mais il doit y avoir quand même de bons chrétiens en Russie. Pourquoi n'y en aurait-il pas? Il y en a même en France.
Mais la Sainte Russie, ce n'est pas nécessairement existé contre les autres.
Ah si. Depuis le début, la Sainte Russie, c'était justement le pays saint par rapport aux autres pays.
Par rapport aux autres qui ne le sont pas.
Qui étaient apostats, infidèles, etc. Oui.
Et dans une économie planétaire et une vision mondiale, ça demeure ça.
La Russie, c'est quand même... Elle s'est faufilée dans tous les strapontins des organisations internationales. Mais c'est une rigolade. On sait très bien que la Russie ne vit sur une rente pétrolière, sur une rente de matières premières. Et elle fabrique des armes, parce que c'est la seule chose qu'elle a jamais réussi à fabriquer. Vous vous rasez pas avec un rasoir électrique russe et vous ne mettez pas une bouilloire dans votre cuisine. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est un échec économique très profond. La Russie n'a pas de route. Elle n'a pas été foutue en 20 ans de faire un autoroute entre Moscou et Pétersbourg. C'est toujours une route à deux voies, mal entretenue.
Il y a toujours une forme d'anarchie, en fait, quand même.
Ah ben oui,
tout.
Très profondément. La Russie ne se mobilise que dans les attaques. Hitler, qui avait vu la lamentable conduite de l'armée russe devant la Finlande, s'est dit, on va liquider ça en 3 semaines. Or, dès les premiers affrontements, il y a eu affaire à des Russes qui se battaient comme des chiens, avec un courage extraordinaire, une ruse magnifique, et quand même, 4 soldats allemands sur 5 sont morts sur le front de l'Est. La Russie a morflé au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que même dans la bataille de Berlin, où les Russes nageaient dans le matériel, avaient une supériorité absolue, et les Allemands n'avaient plus rien que leur désespoir, eh bien, ils ont perdu plus de monde que les Allemands. C'est dire, n'est-ce pas, le gaspillage monstrueux des hommes auxquels a procédé l'armée rouge, mais ils ont gagné. Pas l'oublier. Et ils ont gagné avec cette armée qui avait de bonnes armes. Très bonnes armes. Mais ils ont été capables de fabriquer de très bonnes armes. Toute l'économie étant concentrée là-dessus. Le meilleur tank, c'était le T-34, on le sait bien. Bon, mais avec une armée donc quand même primitive et équipée pour les radios, les transports par les Américains, le service sanitaire, tout ça, c'était américain. Donc ils avaient le troufion russe et ses armes. Et ils s'est battu très courageusement, mais... C'est-à-dire des pertes épouvantables. Un des grands crimes nazis, c'est quand même la mise à mort par la faim de 3 millions de prisonniers russes. Et les 2 millions qui ont été épargnés, que les Allemands avaient réussi à faire travailler dans leur usine, une fois qu'ils ont été rapatriés en Russie, Staline les a déportés. C'est bien que...
Ils ont connu l'enfer des deux régimes.
Ils ont connu les deux régimes, voilà.
Merci beaucoup Alain Besançon, ça sera sur cette considération que l'on va achever notre entretien.
Un peu triste.
Un peu triste, mais on retient l'idée que dans l'attaque... Le pays se révèle aussi.
Dans l'attaque, le pays se réorganise, se révèle et montre un courage prodigieux.
Il y a cette idée d'irrédentisme qui est très très forte quand même.
Ah oui, bien sûr.
On pourra naturellement vous lire pour en savoir davantage. Sainte Russie, édition de Fallois, c'est Alain Besançon, membre de l'Institut Historien. Merci beaucoup d'avoir été sur Canal Académie.
Et merci beaucoup à vous.